Chers frères et sœurs et chers amis, ceci est l'étude numéro 7. Et la première partie de ce message ou de cette étude est intitulée « L'importance d'obtenir la réconciliation ». La Bible nous dit dans Romains chapitre 5, verset 11, « Nous, nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. » Romains 5, verset 11. L'expiation est un terme qui n'est plus beaucoup en usage dans le langage religieux de notre temps. On ne le trouve qu'une seule fois dans le Nouveau Testament. Mais, attention, le mot grec, lui, dont il tient la place, se rencontre tout de même 8 fois, et toujours dans les écrits de l'apôtre Paul. Et son sens le plus simple, c'est la réconciliation. Et bien qu'il soit employé par l'apôtre Paul, il exprime une idée que l'on trouve sous la plume de chacun des auteurs du Nouveau Testament. Depuis que Christ est mort, le monde entier est réconcilié avec Dieu. L'Évangile n'est rien d'autre que la proclamation aux hommes de cette expérience et de cette expiation, carrément. Donc, nous avons dit de cette réconciliation. Et le prédicateur convie, demande aux hommes et aux femmes à être réconciliés. Et ceci avec Dieu. Voyez-vous, parce que Dieu s'est lui-même réconcilié avec nous, l'expérience résumée de l'homme et de la femme qui répond à cet appel est celui-ci. Dieu, pour l'amour de Christ, m'a pardonné. Je répète, Dieu, pour l'amour de Christ, il m'a pardonné. L'Église chrétienne s'est attachée fermement à cette vérité. La conviction en serait confirmée par l'expérience universelle s'il en était besoin. Les credos dont l'ont donc enseigné, il me semble, et l'ont précisé. Du reste, l'art chrétien l'a représentée, elle est devenue le thème des plus grands chefs-d'œuvre de l'hymnologie. Ce n'est pas exagéré de dire qu'un homme qui n'a pas obtenu la réconciliation n'a pas pénétré dans le secret de Christ. Et cependant, cette doctrine est fermée et incroyable à bien des hommes pieux, dévots, même ou simplement religieux. Voyez-vous, il y a, me semble-t-il, généralement 3 objections. Souvent, ces objections sont exprimées et toujours fortement ressenties qui entraînent les hommes à repousser l'expiation. La première est qu'elle n'est pas nécessaire, c'est ce qu'ils disent. La seconde, qu'elle est simplement injuste. La troisième, qu'elle demeure un mystère incroyable. Voyons donc tout d'abord, si vous le voulez bien, le raisonnement que l'expiation n'est pas nécessaire. L'objection revêt généralement cette forme. Dieu est amour, il est riche en miséricorde, donc il est un Dieu toujours prêt à pardonner. Il est notre Père dans les cieux, attristé de la folie de son enfant, peiné par sa méchanceté de fils prodigue, mais toujours désireux de lui redonner une place dans sa maison. Ce désir qu'éprouve l'âme pour cette patrie céleste n'est qu'un écho de l'amour et du désir du Père. Tout ce que le pécheur doit faire consiste en une véritable repentance et une confession loyale, et Dieu est alors, par ce fait même, réconcilié avec lui. Point n'est besoin de dresser une croix entre le Dieu d'amour et de miséricorde et l'âme qui se repent. La croix ne peut être au mieux qu'une révélation et un appareil sublime. Mais nous remarquerons qu'une telle façon de comprendre le problème ne nie pas la nécessité de l'expiation. Sous un tel raisonnement se cache l'idée non avouée que la juste et sainte colère de Dieu contre le péché exige quelque réparation. Et c'est là une vérité fondamentale à toute réconciliation et à tout pardon. Nous ne pouvons pardonner un homme qui ne s'efforce pas par tous les moyens dont il dispose d'expier ses fautes. C'est une moquerie que de demander à être pardonné lorsque on n'est pas prêt à réparer le tort que l'on a commis ou à essayer au moins de le faire. Dans ces conditions, c'est la repentance de l'homme, ses larmes, son cri de confession qui constitue son expiation. Tels sont les sacrifices qu'il dépose sur l'autel du Dieu qu'il a offensé. C'est tout ce que l'homme peut faire, mais c'est aussi tout ce qu'il doit faire. Les hommes qui parlent ainsi ne paraissent pas avoir connu l'Évangile. Dieu n'a nullement besoin d'être ainsi apaisé. Il s'est lui-même réconcilié avec le monde. Il n'a nul besoin de la repentance, des larmes ou des cris de l'homme pour devenir le Dieu qui pardonne. Le cœur brisé et l'esprit contrit ne sont chez l'homme que la preuve et l'évidence de son sincère repentir d'avoir péché. Ils sont une part nécessaire dans l'acceptation de l'expiation, mais ils n'ont aucune possibilité de répondre aux exigences morales et spirituelles de Dieu devant le péché de l'homme. Même si nous acceptons pour un instant que les larmes et la repentance de l'homme soient tout ce que Dieu est en droit d'attendre, pensez-vous que votre repentance soit une chose parfaitement irréprochable? Croyez-vous que même dans toute son intensité et sa sincérité, elle soit suffisamment satisfaisante aux yeux de Dieu? Imaginez-vous qu'il existe une seule repentance qui soit susceptible de faire disparaître le passé. Un homme n'a pas besoin de faire des grands efforts pour découvrir toutes les lacunes de sa propre sincérité, sa perpétuelle soif pour les choses mauvaises et mesurer ainsi combien impur et souillé se trouve être sa repentance. À peine relevés de notre confession, nos pas nous portent sur les sentiers du mal dont nous venons de nous repentir. Notre tempérament, notre orgueil et notre vanité, notre indulgence envers nous-mêmes, notre manque de prière, pour ne parler que des péchés les plus ordinaires, fleurissent au sein même de notre repentance. Dans les sacrifices de l'Ancien Testament, l'agneau qui était offert devait être sans défaut, et nous comprenons la valeur symbolique de cette exigence pour mieux mesurer combien nous sommes incapables d'offrir à Dieu une repentance qui soit suffisante à ses yeux. Celui qui prétend agir ainsi n'a jamais compris combien l'iniquité est haïssable, et il n'a jamais eu la vision de la sainteté de Dieu. Les saints les plus authentiques sont ceux qui doutent le plus de la réalité de leur repentance. D'ailleurs, quand bien même votre repentance serait si décisive, si véritable et si profonde qu'elle constituerait une véritable rupture avec le passé, Dieu ne peut accepter que cette repentance mette un terme à tout le passé. Si Dieu est un Père et qui est plein d'amour, il est beaucoup plus que cela. Il est le gouverneur d'un univers moral. Il est le souverain juge de la terre. Il doit faire justice. N'est-il pas l'auteur et le gardien des lois morales? Le juge qui, parmi les hommes, verrait apparaître dans le box des accusés son propre fils, chargé des crimes les plus indiscutables, ne pourrait faire autre chose que d'appliquer la loi à son endroit, quelles que puissent être ses larmes et son repentir. Son cœur de père peut souffrir des douleurs sans pareille. Il peut être consolé en pensant que son enfant en a désormais fini avec ce terrible passé de misère et de péché, mais la loi qui a été violée a des exigences auxquelles personne ne peut se soustraire. Aucune repentance, aucun cri de douleur, aucune larme ne peut empêcher la justice de suivre son cours et le verdict mérite d'être rendu. Et cependant, combien la justice de la terre et des hommes n'est qu'un faible reflet de cette chose mystérieuse et redoutable qui s'appelle la justice de Dieu. Nous savons en effet que le juge suprême est autrement sévère que ceux d'ici-bas, mais cela n'est pas fait pour nous consoler. Le simple fait que nombreuses sont les conséquences du péché qui demeurent irrévocables et irréparables est une preuve manifeste que l'amour de Dieu et sa miséricorde ne peuvent ni ne veulent supprimer sa justice. La croix de Christ satisfait pleinement aux exigences de cette justice et permet alors au gouverneur de notre univers moral d'être libre de pardonner. On nous dit ensuite que l'expiation est injuste. Il y a des hommes qui déclarent ne pouvoir admettre que Dieu ait voulu faire porter à un être saint, juste et innocent le fardeau écrasant de la culpabilité de tous ceux qui étaient pécheurs. En rejetant ainsi l'expiation, ils font plus que en condamner la doctrine, mais ils mettent en question la justice et l'équité même de Dieu et la responsabilité morale de l'homme. Notre monde est cependant celui où cette substitution de l'amour, de la pureté et du sacrifice se manifeste tous les jours. C'est même une des lois les plus réconfortantes et les plus fécondes de la vie. L'avocat qui vous défend au tribunal fait sienne votre cause. Il la défend en se substituant à vous. Le soldat qui meurt aux frontières de son pays pour l'honneur et la liberté défend votre honneur à vous et votre liberté. Il est donc votre substitut. Personne ne trouve injuste que quelqu'un veuille spontanément payer les dettes d'autrui. Celui qui agit ainsi est au contraire l'objet de notre estime et de notre confiance. Lorsque un homme subit la punition d'autrui, accepte le sort d'un autre, répare le mal qu'un autre a commis et le fait volontairement et en parfaite connaissance de cause, nous voyons en lui un bel exemple de justice et de compassion toutes à la fois. Oui, personne n'a jamais taxé l'injustice et l'attitude des bourgeois de Calais qui sont venus offrir leur vie en rançon pour celle de leurs concitoyens. Ce qu'ils accomplissaient alors était le sacrifice volontaire de ceux qui représentaient le peuple. Voyez-vous, lorsque le Seigneur Jésus-Christ, abandonnant sa gloire, revêtit notre chair pour venir vivre une vie d'homme, il éprouva tout au long d'une carrière qui devait le conduire à la croix l'agonie que cause le péché. Il en a accepté tous les jours la malédiction et la sanction et, en mourant, lui le juste, pour des injustes, il faut bien le dire, il a pu nous introduire jusqu'auprès de Dieu. Si Christ n'est qu'un homme, sa mort n'a de valeur et d'intérêt que pour lui. Elle n'a que peu de rapport avec notre propre expérience. Mais attention, mais représente de la race des hommes, Christ a confessé par sa mort la parfaite sainteté de la loi divine. Et il a offert sa vie sans péché à la rigueur de ses exigences, accomplissant ainsi l'expiation pour le péché. La vérité de cet enseignement biblique se voit dans bien des exemples matériels qui le typifient. L'agneau du sacrifice, le bouc émissaire, le serpent d'airain ne sont que des images de cette vérité. Faut-il parler de toutes les nobles vies dont l'Ancien Testament nous rapporte le détail et qui sont, au moment cruciaux de leur expérience, des types de Jésus-Christ? Oui, personne n'a jamais trouvé à redire à ce noble héroïsme qui s'est donné sa vie afin de sauver celle des autres. Mais je veux me référer même aux scènes les plus tendres de l'Ancien Testament. Voyons un peu cela. Pensez par exemple aux paroles suppliantes de Judas lorsqu'il plaide devant Joseph la cause de Benjamin. La coupe d'or a été trouvée dans le sac de ce dernier. Il paraît donc n'être qu'un voleur ingrat et sans pitié. Il n'y a aucune raison, semble-t-il, à ce qu'il ne soit pas seul à supporter le châtiment que mérite son acte. Mais voilà, Judas, son frère, s'est porté garant de lui, et ceci auprès de leur père qui est resté au pays. Alors, il s'avance, et faisant part à Joseph de l'amour particulier que leur vieux père porte à son dernier né, et il s'offre pour rester esclave, et ceci en son lieu et place, donc à la place de Benjamin. Ainsi Jésus-Christ, notre frère, a voulu prendre notre place et subir le châtiment qu'exigeait la loi divine, cette loi divine qui est par nous, qui est violée par nous, par nos péchés, n'est-ce pas? Je répète, Jésus-Christ a donc pris notre place et a subi le châtiment qu'exigeait la loi divine qui est par nous totalement violé. Il a donc subi le juste jugement de Dieu, et ceci à notre place. Comme le chef sait mourir pour son peuple, comme le véritable prêtre qui porte extérieurement ou non les marques de sa consécration, ne cesse de substituer au coupable, de même Jésus-Christ a affronté les rigueurs du jugement à notre place et il a donné aux exigences de la justice divine toutes les réparations qui étaient nécessaires en offrant sa vie en rançon pour beaucoup d'hommes, pour nous tous, et ceux qui acceptent sa mort comme leur sacrifice offert à Dieu, sont par cela même au bénéfice de l'expiation. On nous dit aussi que l'expiation est un mystère incroyable. Tout homme qui éprouve le sentiment de son péché en comprend la nécessité. Tout homme qui essaie de pénétrer la nature de la personnalité divine en comprend la justice. Mais tous les hommes réalisent aussi combien cet acte est mystérieux et incroyable tout à la fois. Voyez-vous, lorsque nous sommes en communion étroite avec le Seigneur, il nous arrive parfois de voir ce mystère s'estomper pour un moment. Mais toute réflexion humaine ne fait que le rendre plus profond et plus étrange encore. Il y a là quelque chose qui dépasse la compréhension et l'entendement des hommes. La prédication de la croix est parfois une folie, parfois une pierre d'achoppement, parfois aussi un message difficile à accepter pour les cœurs mêmes les plus disposés à croire. Les pensées du Dieu éternel et tout-puissant ne sont en rien les pensées des créatures faibles et limitées que nous sommes. Mais un mystère n'est pas forcément incroyable, il ne doit pas en soi constituer un empêchement pour la foi. Être mystérieux ne signifie pas être déraisonnable, et nous connaissons bien des choses qui sont des mystères et cependant des réalités uniquement parce qu'elles dépassent le niveau de nos connaissances ou de nos possibilités humaines. Or, voyez-vous, nous l'avons vu, il n'y a rien de plus logique et rationnel que l'expiation pour réconcilier l'homme avec Dieu. Quand vous aurez sondé tous les mystères que représente pour l'homme la personnalité de Dieu, l'univers, l'âme, le péché et la mort, quand vous aurez pleinement compris pourquoi Dieu a créé l'homme et la terre, vous n'aurez pas pour cela sondé le mystère de l'expiation. Elle reste un mystère parce que tout effort pour la définir est une tentative de mesurer ce que notre pardon a pu coûter à Dieu. Et c'est là une donnée que rien ne peut apprécier. Le pardon et la réconciliation ne sont jamais faciles, ni jamais bon marché. La repentance de l'homme qui a ruiné votre vie ou votre nom n'est pas un prix suffisant pour que vous puissiez pardonner. Elle ne supprime pas la condamnation. Si Dieu pardonnait aisément, il ne serait pas Dieu. L'expiation n'est rien d'autre que Dieu lui-même, venant vivre une vie d'homme, s'assujettissant aux infirmités et aux limitations de la chair, acceptant les tentations et les épreuves qui sont le lot des hommes, portant tout le poids de la malédiction du péché et consommant son sacrifice par la mort de la croix. ce que cela a coûté à Dieu, ce que cela signifiait pour le Fils bien-aimé, ce que cela impliquait d'amour et de justice tout à la fois, qui peut le dire ou simplement l'imaginer? Vous ne pouvez vous-même dire aux autres ce que le pardon vous a coûté dans certaines circonstances tragiques de votre vie. Comment donc pourriez-vous sonder ce qu'il a pu coûter à Dieu? L'expiation ne peut donc que rester un mystère de la foi et donc, en quelque sorte, on peut dire, aussi longtemps que l'âme n'en a pas fait la bienheureuse et toute personnelle expérience, eh bien, croyez-moi, croyez que Dieu est un Dieu unique qui peut pardonner. L'expiation est un mystère, que vous le croyez ou pas, parce que c'est un fruit de l'amour. Toute souffrance subie pour autrui et tout sacrifice qui apporte avec lui la guérison, toutes les actions chevaleresques de ce monde et tout acte qui s'efforce d'en ôter la malédiction et d'en atténuer la souffrance et l'angoisse sont des fruits de l'amour. Oui, des fruits souvent étranges même pour le plus brave et le plus noble cœur. Pour l'égoïste, évidemment, ce n'est que de la folie. On raconte l'histoire d'une jeune missionnaire qui était revenue de son champ de travail et elle fut priée en rentrant au pays de s'arrêter à une station missionnaire installée parmi les lépreux. Elle fut profondément émue pendant son séjour par tout ce qu'elle a vu et ne manqua pas d'en parler lorsqu'elle fut rentrée au pays. Mais quelques semaines après son retour, voyez-vous, une petite tache est apparue sur sa main et l'on a diagnostiqué que c'était la lèpre. Animée du même esprit que le Seigneur lui-même, elle a écrit au comité de la société missionnaire qui l'employait, disant qu'elle ne pouvait plus, à cause de sa maladie, rester dans son pays ou retourner à son ancien champ de mission, mais qu'elle demandait instamment qu'on la fasse partir comme missionnaire parmi les lépreux. L'expiation appartient à cette classe-là de sacrifice. C'est l'œuvre de l'amour compatissant. C'est un mystère incroyable pour tous les hommes et toutes les femmes qui n'ont jamais pensé qu'à eux-mêmes et qui n'ont jamais connu d'autres amours que l'amour de la vie et qui n'ont jamais été aimés d'un amour capable de subir la mort pour eux. Bien que l'expiation se présente à nous comme un mystère sous bien des aspects, eh bien, voyez-vous, sa signification et sa puissance sont cependant parfaitement claires. L'homme de savoir, habitué à réfléchir et à mesurer l'immensité de certains problèmes qui s'offrent à la pensée humaine, s'y penche avec un étonnement plus grand que l'esprit simple et candide, mais son sens demeure le même pour le cœur de tous les hommes. Pour accepter la substitution que Christ met ainsi à notre disposition, il faut simplement avoir une simple et claire vision du Christ mourant sur le calvaire. Donc, une vision personnelle de ce qu'il a fait et souffert pour moi, pour mes offenses et pour mon péché. Un souvenir qui ne s'effacera jamais de ma mémoire et qui marquera désormais toutes mes pensées et inspirera tous mes actes à l'avenir. Oui, chers amis, il suffit de croire que Dieu a été réconcilié avec nous par la mort de son Fils bien-aimé, ému jusqu'à une sincère et véritable repentance, confessant à Dieu sa misère et son péché, l'homme obéit à l'exhortation de l'apôtre « Soyez réconciliés avec Dieu ». Il peut alors, dans une foi confiante et sereine, répéter avec l'apôtre Paul « Nous nous glorifions en Dieu » par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui, maintenant, nous avons obtenu la réconciliation. Chers amis, la deuxième partie de notre étude concerne une question importante. Nos péchés nous retrouvent-ils toujours? La Bible nous dit « Il ne nous a pas traités selon nos péchés ». Psaume, chapitre 103, verset 10. S'il y a une vérité dont l'esprit humain moderne est tout particulièrement pénétré, c'est bien celle qui proclame que le péché est suivi d'une manière absolue et inéluctable des justes conséquences et du châtiment qu'il comporte. Du moraliste au romancier, tous les hommes qui pensent ou écrivent mettent l'accent sur cette vérité première qui a inspiré les pages les plus émouvantes de la littérature de tous les peuples. Remords, regrets, conséquences impitoyables du péché assaillent l'homme à l'heure où il aurait tout pour être heureux et le poursuivent sans cesse. Foyer ruiné, enfant malade, confiance et estime perdue, situation compromise, il contemple tout cela, alors même qu'il est lui-même éprouvé dans sa chair, souvent atteinte par la maladie, dans son esprit inquiet et torturé, il a péché et il doit payer jusqu'au dernier centime les conséquences de ces actes de folie. Cette assertion solennelle est proclamée bien des fois dans les Saintes Écritures. L'âme qui pêche mourra. Ils ont semé le vent, ils moissonneront la tempête. Le salaire du péché, c'est la mort. Ce qu'un homme a semé, il le moissonnera aussi. Oui, voyez-vous, le péché, lorsqu'il est accompli, conduit à la mort. Nombreux sont les exemples dont l'Écriture sainte illustre son enseignement. Ésaü, pour avoir méprisé son droit d'aînesse par une parole profane, perd le bénéfice spirituel du contact avec Dieu. Jacob se voit conduit en exil par son péché et pendant de longues années angoissé dans son âme et affligé du péché de ses enfants, il aura le temps de récolter les conséquences de ce qu'il a semé. Le péché a conduit Saül à la folie et au suicide. David est condamné par ceux qu'il rencontre dans les rues de Jérusalem et son péché endeuille son foyer et met en question l'œuvre de toute sa vie. La vie voluptueuse de Salomon se termine dans une corruption dont il est le premier à supporter les conséquences. Et ainsi, page après page, et nom après nom, la Bible nous conduit jusqu'à Judas, que le péché a conduit au suicide, pour nous enseigner d'une manière solennelle et irréfutable que chaque homme reçoit toujours l'entière récompense que mérite son péché. Et cette vérité est si constamment mise en évidence et quelquefois d'une manière si brutale et séparée des autres vérités qu'elle en devient presque un mensonge. Ce n'est pas tout la vérité et rien que la vérité. Ce n'est pas vrai que tout péché reçoit son salaire. Il n'est pas vrai que l'on paye jusqu'au dernier centime. Il n'y a pas en effet une seule loi dans l'ordre de la nature dont la puissance et l'étendue soit illimité. La vie et l'expérience chrétienne démontrent l'un et l'autre que la loi n'est jamais un fait suprême et déterminant dans tous les cas, car c'est une vérité certaine et universelle, bien sûr, qu'il existe dans le monde une volonté bienveillante, un cœur plein de tendresse d'un être divin tout puissant. Et cette volonté contrôle la loi et en détermine les développements et les conséquences. En un mot, cet enseignement austère, brutal et redoutable, n'oublie qu'une chose, c'est Dieu lui-même. C'est exactement ce que le psalmiste avait compris lorsqu'il s'écriait « Il ne nous a pas traités selon nos iniquités. » Il savait que dans ce monde qui semble régi par des lois inexorable, l'amour s'exerce sans cesse et la miséricorde trouve sa joie à sauver le coupable du juste jugement. Illustrons cette vérité en examinant comment notre Dieu a su agir à notre endroit. Il nous faut tout d'abord comprendre la providence de Dieu. Lorsque un homme est sur le point d'être rejoint par son péché, d'en subir les conséquences et d'en porter jeter l'opprobre, la divine providence interfère souvent pour suspendre le cours normal des choses. L'homme avait déjà la tête courbée, prête à recevoir le coup qui devait le frapper, mais il n'a rien senti d'autre que de le délicat attouchement de la main d'un Dieu miséricordieux. Il n'est pas vrai que tout ce qu'un homme a semé, il le moissonnera. On cite souvent bien mal les paraboles ou les paroles de l'apôtre Paul concernant cette nécessaire rétribution. Oui, on cite souvent injustement les choses, car en effet, le monde de la nature tout autant que les réalités spirituelles nous montrent que souvent celui qui a semé ne récolte rien, malgré tous ses efforts et tout son soin. Et l'apôtre Paul a voulu dire qu'un homme récoltait toujours ce qu'il avait semé et non autre chose. Car qui sème du blé récoltera du blé et non de l'orge. Qui sème des figues ne moissonnera pas des épines. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit, donc la vie éternelle. Mais il y a bien des lois divinement établies qui exercent leur influence et leur action contre le temps des semailles et celui de la moisson. Et c'est ici le terrain par excellence de la providence de Dieu. Un homme peut semer et ne jamais récolter. Un autre peut récolter où il n'a pas semé et ramasser là où il n'avait pas travaillé. Ainsi, entre le péché de l'homme et ses conséquences normal pour l'homme, se placent les constantes interventions de la Providence, dont l'Écriture sainte nous fournit tant de saisissants exemples, car il ne nous a pas traités selon nos iniquités. L'Ancien Testament nous rapporte de magnifiques exemples de cette interférence de la provision, de la providence divine. Dans les circonstances coupables des hommes et des femmes auxquelles le psalmiste pensait en écrivant les paroles que nous méditons, mais il y a en particulier un épisode qui illustre d'une manière dramatique la réalité de cette intervention de la providence divine. Lorsque les frères de Joseph, rappelez-vous, eurent jeté celui-ci, oh oui, ils l'ont carrément jeté dans un puits, ils s'étaient rendus coupables carrément de meurtre. Et en montrant à Jacob la robe aux vives couleurs de son fils, tachée de sang, ils mentaient délibérément. Ils ont donc vécu pendant 20 ans sous l'ombre empoisonnée de ce terrible mensonge. S'ils avaient moissonné ce qu'ils avaient semé, croyez-moi, ils auraient récolté un esclavage de servitude et une mort impitoyable auraient été leur sort à tous. Lorsqu'ils se trouvent en présence de Joseph, vivant et grâce à sa bonté, pardonné par grâce, ils sont totalement stupéfaits du cours imprévu des événements et ils sont humiliés par les bienfaits inattendus de la providence divine. Car Joseph révèle le secret de leur expérience lorsqu'il dit « Vous aviez pensé me faire du mal, mais l'Éternel l'avait pensé en bien. » D'une manière quelquefois parfaitement claire et évidente, mais bien souvent complètement cachée à nos regards, par les circonstances imprévisibles de l'histoire, par les paroles, les actes, la jalousie, la haine, l'amour et la compassion qui entourent nos vies, même par les lois aveugles de la nature, Dieu l'interpose. Oui, Dieu s'interpose, croyez-moi, et il atténue au profit de ceux qui l'aiment et la rigueur impitoyable de sa loi et donc l'amour. Un simple coup d'œil sur nos propres expériences nous fait découvrir le continuel et l'encheminement de la providence divine qui nous permet de redire avec le psalmiste « Il ne nous a pas traités selon nos iniquités ». Oui, chers amis, il convient ensuite que nous apprécions la justice de Dieu. Les hommes semblent souvent croire que cette loi de rétribution et de châtiment est la seule règle imprescriptible qui régisse la vie des hommes. Ils déclarent que les conséquences du péché doivent se poursuivre inéluctablement comme un destin fatal et terrifiant, le poursuivant comme l'antique Némésis qui s'attachait au pas de ses victimes de génération en génération. C'est une vérité terrifiante de savoir, oui, de savoir que nos péchés déclenchent les forces aveugles du châtiment. L'homme est consterné de constater l'ampleur et l'étendue d'une seule mauvaise action, mais Dieu se sert de la loi pour faire échec à la loi. Dieu permet à la miséricorde, qui est une loi d'un ordre bien supérieur, de faire échec à la loi du jugement, qui est d'une qualité moindre. Dieu contrarie les exigences de la loi de la rétribution par la loi de la réparation. Il y a des lois de guérison, de renouveau et de purification qui annulent le préjudice causé, réparant le dommage et restaurant dans leur vigueur première les forces qui ont été affaiblies par le mal. Ces lois de renouveau et de réparation nous apparaissent clairement dans les œuvres de la nature. La tempête couche l'herbe et en détruit la fleur qui se disperse au souffle du vent. Mais le printemps suivant révèle les 1000 pousses nouvelles qui sont le fruit inattendu de ce que jadis s'était révélé comme un mal. Mais cette loi des réparations apparaît plus clairement encore dans le monde spirituel. Voici un homme qui a passé les années de sa jeunesse dans la dissipation. Il est la proie de son péché qui a fait de lui une véritable ruine physique et morale tout à la fois. Certains lui ont déjà dit que son péché l'a trouvé et qu'il en porte les conséquences. Il a semé de folles avoines. Il doit en faire la récolte maintenant. Il doit subir les années de faiblesse et de maladie. Et sa conscience ne peut que faire écho à ce lugubre message jusqu'à ce qu'elle soit conduite aux portes du désespoir. Mais qu'en un instant de foi, il accepte la miséricorde de Dieu, que l'Esprit de Dieu se répande en lui et sa vie se trouve d'un même coup transformée. Son corps retrouvera les forces qui lui sont nécessaires. Une vigilante discipline sur lui-même tiendra en brèche ses désirs mauvais. Ses capacités spirituelles lui seront enfin rendu et il reprendra courage et retrouvera la joie et l'espérance depuis si longtemps abandonnés. Il peut lui aussi dire « Amen » aux paroles du psalmiste. Il ne nous a point traités selon nos péchés. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup d'hommes pour lesquels cette parole est une source de réconfort et de consolation. C'est ce que le psalmiste écrivait en donnant son propre témoignage. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes infirmités, qui arrachent ta vie au tombeau et qui te couronnent de bonté et de miséricorde. Oui, c'est lui qui comble de bien ta vieillesse et renouvelle ta jeunesse comme celle de l'aigle. Psaume 103, versets 3 à 5. Je répète, c'est le psaume 103, versets 3 à 5. Caché dans les ténèbres, enseveli sous la masse des détritus qui laissent en nous le péché, bien des possibilités de l'âme demeurent inconnues. Mais lorsque de nouvelles conditions de vie se manifestent, ce qui est pur et saint dans le cœur de l'homme, tout ce qui paraissait inexistant ou a jamais disparu, la simplicité et la pureté du petit enfant apparaissent au milieu des œuvres de ténèbres et de mort. L'homme est né de nouveau, il marche en nouveauté de vie, car il ne nous a pas traités selon nos iniquités. Chers amis, considérons enfin le châtiment de la grâce de Dieu. Dieu nous a déjà manifesté sa miséricorde dans les œuvres de sa providence et dans l'exercice de sa justice. Mais il est un domaine où les conséquences du péché peuvent atteindre le coupable d'une manière tout particulièrement rigoureuse. La providence de Dieu peut en atténuer les conséquences les plus douloureuses. Sa loi peut faire naître une vie nouvelle qui, par ses fruits extérieurs et apparents, révèle le changement intérieur survenu. Mais il reste les conséquences morales du péché, les tragiques résultats spirituels du mal qui sont comme une malédiction qui pèse sur l'âme. Le débouché peut avoir changé de conduite et se plaire dans la compagnie des hommes justes et pieux. Il ne peut cependant abolir ou supprimer ce qu'il a fait pendant les années qui ont précédé sa conversion. Il ne peut purifier ses souvenirs. Il ne peut abolir sa mémoire. Les mauvaises actions peuvent apparaître au domaine du passé, mais dans la solitude de son âme se dressent sans cesse les souillures du péché, les échecs de sa vie passée, les désirs d'hier et les marques indélébiles du péché. Je répète cela, les mauvaises actions peuvent appartenir au domaine du passé. Mais voyez-vous, dans la solitude de son âme, de notre âme, de mon âme, se dressent sans cesse les souillures du péché, les échecs de notre vie, les désirs d'hier, les marques indélébile du péché et de nos erreurs. Tout cela vient le retrouver, nous retrouver et nous accuser. Mais la douleur la plus amère est bien certainement le souvenir des choses faites qui ne peuvent être effacées. Les suggestions impitoyables d'un passé accusateur auquel on ne peut répondre et qui souligne sans cesse tout ce qui nous sépare de Dieu. L'homme a besoin de quelque chose de plus que d'une providence miséricordieuse ou d'une loi nouvelle qui corrige les erreurs du passé. Il a besoin de la grâce. Il doit faire l'expérience du pardon et du renouveau qui sont proclamés par l'Évangile et manifestés à la croix de Christ. Plus qu'une simple providence s'interposant entre l'homme et le juste châtiment de ses fautes, plus qu'une nouvelle loi capable de produire en lui un être nouveau, l'homme a besoin de voir comblé le fossé immense qui le sépare de Dieu. Sa conscience coupable doit purifier. Il a donc besoin de voir éloigner de lui la douloureuse et la plus dramatique des conséquences de son péché, la terreur l'éprouve d'un vent séparé. Tout cela lui est donné par la croix. Elle n'est pas simplement la plus pathétique des pages de l'histoire, destinée à nous émouvoir d'une tendre plus que le monde est connu, afin de révéler l'horreur qu'à péché. Lorsque il se projette sur l'écran d'une absolue pureté, plus que l'acte le plus sublime jamais enregistré dans les annales du temps, et qui nous montrerait ce que peut faire l'homme dans sa perfection, plus que la simple déclaration de l'amour divin, révéler la croix de Christ et le message que Dieu adresse à l'homme qui est tourmenté par sa vie de péché passé, c'est donc Dieu qui s'abaisse lui-même pour recevoir les coups et le châtiment. Oui, le châtiment du coupable. Il est donc prêt à accepter avec joie cette mort qui a détourné de lui le juste jugement, le mettant ainsi à l'abri de toute peine. Il ne peut alors que souscrire aux paroles du psalmiste. Il ne nous a pas traités selon nos iniquités. Oui, chers amis, j'aimerais vous dire avant de terminer cette merveilleuse étude, sachez que les cheminements de la grâce ne se limitent pas à la croix. Ils ne s'arrêtent qu'au moment choisi par lui. Dieu n'abroge jamais complètement ses lois. Il en suspend provisoirement l'exécution ou transforme leur effet meurtrier en douce indication. Dieu n'ôte pas toutes les punitions qu'entraîne le péché. Il ne supprime pas toutes les conséquences des mauvaises actions. Le pécheur même pardonné doit supporter la sanction de ce qu'il a fait. Celui qui est comme un tisson arraché au feu conservera toujours les marques du feu. Dieu a d'ailleurs ses raisons lorsqu'il permet que subsistent certaines des suites de nos fautes. Ne faut-il pas tout d'abord que nous gardions le sentiment de ce qu'est vraiment, ce que représente vraiment le péché, que nous en éprouvions tout l'étendue et l'importance, afin de ne point y retomber par négligence ou simple légèreté? Les chardes dans la chair, j'en sais quelque chose, est une sécurité à l'heure de la tentation. Elle donne son véritable visage au mal lorsqu'il se présente à nos yeux sous un aspect bénin ou attrayant. Ses conséquences nous sont aussi nécessaires pour produire en nous la douceur, l'humilité, la bienveillance et la charité dont nous avons le plus grand besoin, tant pour nous personnellement que pour nos frères et sœurs. Elles sont là pour stimuler notre zèle dans le service, notre esprit de sacrifice et notre vigilance, et par-dessus tout, pour nous amener à une absolue dépendance envers celui qui nous prodigue chaque jour cette grâce qui nous est si nécessaire. La mort du Seigneur Jésus-Christ, que nous devons commémorer jusqu'à ce qu'il vienne, est pour nous pleine, oui, elle est pour nous une pleine signification de joie. Et elle est la preuve formelle que Dieu ne nous a pas traités selon nos iniquités et ne nous a pas récompensés selon la mesure de nos péchés. Chers amis, nous terminerons simplement par une petite prière. Père céleste, tu résistes aux orgueilleux, mais tu fais grâce aux humbles. Ô, accorde-nous la véritable candeur et une humilité d'enfant. Préserve-nous de l'hypocrisie, de la propre justice, des complaisantes illusions. Aide-nous à livrer courageusement, avec patience et fidélité, le combat qui nous est imposé. Donne-nous de regarder toujours à celui qui est le chef et le consommateur de notre foi, qui, doux et humble de cœur, a combattu le bon combat et a été reçu dans ta gloire. C'est Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, que nous voulons aimer, adorer et suivre. Amen. Chers amis, et n'oubliez jamais que Dieu vous aime. Ça, c'est une réalité. Et nous vous aimons également de tout notre cœur. Soyez bénis et merci pour l'intérêt que vous portez à ces messages. Et à bientôt à nouveau. Au revoir, mes très chers amis.